Et je vais commencer par reprier également. Oui Seigneur, je te remercie encore Seigneur pour ta présence avec nous ce matin. Et je te demande Seigneur aussi d'être avec moi Seigneur, de diriger mes paroles, que ce soit vraiment tes mots Seigneur qui sortent de ma bouche. Seigneur. Merci de m'avoir aidé aussi Seigneur cette semaine à préparer ce message Seigneur et je te prie Seigneur qu'il puisse vraiment rendre gloire à ton nom Seigneur. Amen. Alors le titre de ce message, ça pourrait être une question qui serait « Quelle obéissance envers notre Dieu ?» Alors je vous invite pour commencer à ouvrir la parole de Dieu pour ceux qui ont une Bible. Et vous pouvez prendre le livre des Actes au chapitre 9 et au verset, on va lire du verset 1 au verset 22. Qui est un passage, je pense, que la plupart ou presque tout le monde doit connaître. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints, dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquent ce nom, et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitait Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alors ce passage qui se situe juste après les 4 évangiles dans le Nouveau Testament nous parle de la conversion d'un homme, donc Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Et cet événement dans la Bible est primordial parce qu'en fait elle marque un tournant dans le témoignage justement de la parole de Dieu qui est que c'est en fait le début du témoignage fort et vraiment dans tout le monde vers les non-juifs. Là où avant, dans l'évangile et jusqu'à ce moment-là, c'était vraiment particulièrement vers les juifs, à part quelques personnes comme Philippe, auprès d'un Éthiopien par exemple, mais sinon c'était vraiment tourné quasiment exclusivement vers les juifs. Mais avant cela, donc avant ce témoignage envers les non-juifs, donc on a cette personne, Saul de Tarse, Et première question que je me suis posée en posant un peu en lisant ce texte aussi, c'est mais qui était vraiment ce Saul de Tarse? Parce que dans les premiers versets, on peut lire quand même qu'il s'agissait d'un homme respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Un homme qui en fait s'était un peu donné la mission vraiment d'éradiquer ceux qu'il considérait comme une menace en les faisant emprisonner, voire plus. Et je dis éradiquer aussi parce que, en fait, Saul de Tarse vient de la ville de Jérusalem. Et là, il est en direction de la ville de Damas. Et Damas, je ne savais pas trop le situer par rapport à Jérusalem, donc j'ai pris une carte, j'ai regardé. Et il y a environ 300 km entre les deux villes. Il y a quand même une belle distance. Vous savez qu'aujourd'hui, on prend un avion, on prend une voiture, on prend un train, ça va assez vite, 300 km. On voit l'île Paris, ça va vite, un peu plus loin, ça va assez vite aussi. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas tous ces moyens-là. Et 300 km, j'imagine, ça faisait quand même pas mal de jours vraiment de marche. Et ça voulait quand même dire qu'il avait quand même un, on va dire, sacré acharnement envers les chrétiens. Mais alors, est-ce que ça voulait dire que c'était un homme vraiment si violent, sans scrupules, motivé par le pouvoir? Et bien, d'un certain côté, je pense que le caractère violent, on peut quand même lui laisser, effectivement. Hein, encore une fois, le mot meurtre est un mot assez fort. Mais pour ce qui est de ses motivations, la partie pouvoir, je suis persuadé qu'il ne recherchait pas le pouvoir. Il faut savoir aussi que Saul, c'était une personne en réalité très religieuse. Ça peut peut-être vous surprendre hein, par rapport à ce que je viens de dire, qui persécutait les chrétiens, mais c'était une personne qui avait été formée et instruite selon la loi de Dieu. Et lui-même le dit d'ailleurs un peu plus loin, toujours dans les Actes, au chapitre 22 et verset 3, il dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Mais alors comment est-ce possible qu'un homme pourtant reconnu comme religieux, qu'un homme sincère dans sa foi, soit si violent envers d'autres chrétiens. Et je peux vraiment vous assurer que Saul connaissait les Écritures, et même sûrement mieux que beaucoup d'entre vous. En tout cas, pour ma part, je suis persuadé qu'il les connaissait bien mieux que moi aujourd'hui. Mais l'explication à cette violence dont il faisait preuve est une chose très simple, en réalité. C'est que Saul connaissait effectivement les Écritures, mais il ne connaissait pas encore son Sauveur Jésus-Christ. Il était guidé en réalité encore par ses pensées humaines qui lui disaient justement que cette nouvelle doctrine, comme il est mentionné ici, était une menace pour la foi juive. Et il n'était donc non pas dirigé par la lumière de la parole de Dieu. Et on y reviendra aussi par la suite, mais je vous invite aussi dès à présent à vous poser cette première question, qui est ben, combien d'entre nous se laissent guider justement par nos pensées, par ses pensées et non pas par la lumière de Dieu. Par ses propres réflexions, plutôt pas que par ce que nous dit le Seigneur. Et vraiment, quel est notre guide chaque jour? Donc on arrive à la première partie vraiment de ce passage que j'ai un peu appelé le bouleversement, qui commence au verset 3. Et donc Saul se dirigeait hein, tranquillement vers Damas, encore une fois à 300 km de Jérusalem, prêt à poursuivre sa mission, quand un événement surgit. Un événement inattendu pour lui. Et sa vie est en train de basculer. Il ne sait pas encore tout à fait, mais sa vie bascule. On se dit souvent qu'on a le temps, qu'on fera ceci plus tard, qu'on doit profiter du moment, qu'on a vraiment encore du temps derrière nous pour faire d'autres choses et pour penser à d'autres choses. Mes frères et sœurs, ce que nous montre ce passage, c'est que non, nous n'avons pas le temps. Nous ignorons ce qui peut nous arriver demain, mais même dans la minute qui suit. Saul a dû partir, je pense, à Damas, confiant, confiant encore une fois dans sa mission, confiant dans ses forces, confiant dans ce qu'il était prêt à faire, dans la réussite de sa mission. Pourtant, on va passer d'un homme qui est persécuteur, qui est, entre guillemets, quand même, qui a une certaine puissance, à un homme dont la vie s'est écroulée vraiment en un instant. Il est devenu aveugle. Alors, que s'est-il passé exactement? Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix. À ce moment-là, Saul, en fait, est en train de rencontrer personnellement son Sauveur. Personnellement, parce que c'est Jésus lui-même qui est en train de lui parler. Et qui lui dit, une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Alors souvent, et moi-même au début, je lisais ce passage en une fois. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et j'ai essayé de me mettre aussi à la place de Saul. Et pour me demander qu'est-ce qu'il a vraiment entendu. Et c'est que l'instant a duré quelques secondes, hein, c'est une phrase très courte. Mais même un événement aussi court qu'il soit peut nous paraître parfois une éternité. Et je pense qu'il a d'abord entendu, première fois, son prénom, Saul. Il y a Jésus qui l'interpelle. Et je pense qu'il a dû se poser, même si encore une fois ce moment était court, beaucoup de questions. Mais que m'arrive-t-il? Que me veut mon Dieu? Parce qu'il y a quand même la lumière qui est là aussi, et cette lumière lui montre, et il comprend tout de suite qu'il est vraiment face à la souveraineté de Dieu. Veut-il me féliciter pour mon zèle? Pourquoi ne pourrait-il pas se poser cette question-là? Encore une fois, il est plein de zèle, il est sincère dans sa foi, et pour lui, sa mission est juste, légitime. Et là, il entend une deuxième fois, « Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Le ciel a dû lui tomber sur la tête. Quelqu'un dans le ciel le connaissait, lui, personnellement, même si derrière il demande la confirmation, hein, « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Il a encore un retour qui lui dit « Mais je suis Jésus que tu persécutes. » C'est que Dieu nous interpelle tous de manière différente, pas toujours de manière aussi spectaculaire, on va dire, que Saul. Mais il faut vraiment comprendre que cette rencontre personnelle avec Jésus est nécessaire. Nécessaire pour avoir une vraie conversion. C'est la première étape vraiment du changement dans une vie. On pense souvent qu'on va d'abord faire changer une personne pour qu'elle vienne à Dieu, mais c'est pas ça, c'est pas comme cela que c'est pas dans cet ordre-là que ça marche. Pour pouvoir changer une personne, on doit d'abord rencontrer le Seigneur Jésus. Et c'est justement ce qu'est en train de vivre encore une fois Saul sur ce chemin. Avant ce moment-là, si on était à cette époque-là, j'aurais pu vous inviter à aller le rencontrer, à aller essayer de lui parler de Dieu, de lui dire un peu qu'il devait changer justement de vie, qu'il devait arrêter de persécuter les chrétiens. Quelle aurait été l'issue d'après vous? Je pense que vous auriez fini persécuté, emprisonné, voire tué. Et Saul avait besoin vraiment de rencontrer d'abord son Seigneur, pour changer, et tout comme chacun d'entre nous, comme chacun d'entre vous. Et pour Saul, il y a une seconde quand même réalité aussi là qui le frappe, une vérité qui est implacable, et qui nous est apprise aussi, ou en tout cas dite aussi, par Jésus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, versets 40 et 45. Je vais prendre... Donc verset 40, tout d'abord. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Verset 45, dit autrement, il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Saul n'était pas en train de persécuter, entre guillemets, simplement des chrétiens ou des hommes. Il persécutait directement Jésus-Christ. Que répond alors Saul? Que veux-tu que je fasse? Là, cette réponse m'a surpris aussi. Encore une fois, Saul, persécuteur, je pense leader, ne cherche pas à se défendre, ne cherche même pas à se justifier. Il ne cherche pas à combattre contre ce Dieu qui lui parle et l'accuse aujourd'hui de persécuter lui directement. Mais en fait, Saul avait compris qu'il ne pouvait rien faire face à cette vérité, encore une fois, implacable. Il ne pouvait rien faire si ce n'est avouer ses fautes. Et il avait compris qu'il était vulnérable et qu'il avait besoin de Dieu. Et de ce Dieu qui lui parle en plus, non pas comme un juge impitoyable, avec agressivité, mais avec une voix en réalité pleine de grâce et d'amour. Et ça appartient à Dieu, tout comme nous. Et le Seigneur est en train de lui parler, d'une voix encore une fois calme, posée. « Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et donc à la réponse, « Que veux-tu que je fasse ?» Je vais encore m'arrêter quelques instants sur la réponse de Jésus aussi à cette question, avant de passer à la suite du passage. Jésus a donc arrêté cet homme sur le chemin, il l'a interpellé. Il l'a amené à comprendre ses fautes, à s'humilier, il s'est mis à genoux, à terre. Et là, qu'est-ce qu'il lui répond ? Il lui répond « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Pour faire simple, pas de réponse, ou en tout cas une réponse pas très explicite. Et Saul devra même encore attendre, si on lit un peu, 3 jours, vraiment pour avoir une réponse complète. 3 jours qui étaient nécessaires pour que la transformation du Seigneur dans le cœur de Saul ait lieu, et qu'elle puisse s'opérer vraiment en lui. Une transformation qui a été menée par Jésus-Christ, et où Saul a dû passer par plein de stades. Il a ressenti tous les remords de sa vie passée, au point d'ailleurs de ne plus manger pendant ces 3 jours, de ne plus boire. Il était seul avec Dieu et n'avait en réalité qu'un seul recours, la prière. Il est marqué, il prie. Et c'est vrai que encore une fois, j'insiste sur le mot, les vraies conversions impliquent de s'anéantir soi-même comme est en train de le faire Saul. L'homme doit apprendre à se placer du côté de Dieu et en même temps contre lui-même. C'est ce qu'on appelle justement aussi la repentance. Et il nous faut aussi être vidés, justement, de nous-mêmes pour pouvoir être remplis par le Christ. Donc Saul va obéir une première fois, il va se lever, et lui qui était un leader, encore une fois, c'était lui qu'on suivait auparavant, et bien, il est devenu dépendant, on le prit par la main. Et c'est lui qui doit suivre désormais, qui doit suivre Jésus. Alors dans la suite du passage, à partir du verset 10, on voit apparaître une nouvelle personne qui est Ananias. Ananias est un chrétien qui vivait à Damas, comme par hasard, on va dire. Est-ce que c'était vraiment hasard ? Moi, je suis persuadé que non, parce que Dieu connaît tout, sait tout, et il avait déjà préparé justement le terrain aussi pour Saul, pour la conversion de Saul. Et donc Ananias, c'est un chrétien, on peut dire, ordinaire, mais qui va se révéler, si on regarde bien, comme un témoignage vivant d'obéissance au Seigneur, et un témoignage vivant aussi de l'amour de Dieu. Donc, tout comme avec Saul, ça commence par une interpellation, un appel du Seigneur, Ananias, avec une réponse de son serviteur qui dit « Me voici, Seigneur ». Alors, ce passage-là m'a fait penser aussi au passage dans Samuel, où justement Samuel aussi avait été appelé par le Seigneur, et qu'au moment où il a compris que c'était le Seigneur qui s'adressait à lui, a eu la même réponse, « Me voici ». Et ce premier verset nous montre une première chose aussi importante qui est la communion d'Ananias avec Dieu. Jésus l'appelle, il répond. Et pas par n'importe quelle réponse encore une fois, mais par « me voici ». Et c'est un « me voici » qui signifiait plusieurs choses, qui signifiait « je suis disponible pour toi, avec toute ma concentration », pas comme, si je peux dire, un mari qui parfois est devant son ordinateur, devant un événement sportif et qui dit à sa femme « me voici, j'écoute ». Un « me voici » qui signifiait aussi « je suis disponible maintenant, tout de suite ». Pas comme un enfant à qui les parents peuvent dire « allez, viens ». L'enfant répond « je viens ». Vous pouvez l'attendre, hein, s'il n'y a pas X relance. Le « tout de suite et maintenant », ce n'est pas tout à fait ça. Et un « me voici » aussi qui est « je me soumets à toi, sans revendication ». Et combien d'entre nous vraiment peuvent prétendre avoir cette relation, cette communion avec Dieu. Samuel, est-ce que je réponds « me voici » de suite, avec la même signification. Et d'ailleurs, j'ai bien souvent moi aussi failli dans ma relation, notre frère en parlait tout à l'heure aussi pendant la période de vacances, où on se donne des objectifs qu'on n'arrive pas toujours à atteindre. Et c'est pareil pour moi sur le temps, parfois, que j'ai pu accorder ou que j'accorde au Seigneur. Mais vraiment, la vie d'un disciple du Seigneur commence pourtant par sa relation avec Jésus. Et pour développer cette communion, justement avec Jésus, il n'y a pas 50 moyens de le faire. Il n'y en a que deux, c'est lire la parole de Dieu et prier. Et Ananias, lui, donc, écoute véritablement le Seigneur, qui va lui demander d'aller trouver Saul, de lui imposer les mains. Tout à l'heure, je vous ai demandé, ben, si vous étiez à cette époque-là, est-ce que vous auriez osé aller voir Saul de Tarse ? Avant sa conversion, en tout cas. Et là, c'est ce que, justement, Jésus demande à Ananias de faire. Une mission un peu compliquée, délicate, impossible. Et encore une fois, tout le monde connaît la réputation de Saul, tout ce qu'il a fait à Jérusalem, aussi le pourquoi de sa visite à Damas, il a eu des pouvoirs pour, encore une fois, faire prisonnier hommes et femmes. Et Ananias est au courant de cela, il sait ce qu'il risque, et il va en parler au Seigneur. Mais encore une fois, pas comme on pourrait parfois le faire, pas pour négocier, pas pour essayer de se défiler. Il va simplement partager ses craintes. Il a une relation vraiment telle avec le Seigneur qu'il lui parle simplement. Il n'a pas peur de lui exposer ses peurs, justement, ses craintes, ses doutes. Il sait qu'obéir n'est pas simple, le Seigneur le sait aussi. Mais il sait aussi qu'Ananias, justement, sait écouter. Il va donc prendre le temps de le rassurer. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. » C'est une petite parenthèse hein, qui n'est pas forcément sur le thème de l'obéissance, mais qui est importante aussi à relever. Jésus a choisi Saul, un homme pécheur, comme nous tous. Mais quelle grâce encore que celle de notre Dieu. Et si vous posiez la question, peut-être, en tout cas qui va suivre, j'avais une réponse, il n'y a pas de trop grand péché pour que Dieu ne saurait pardonner et effacer. On parlait de persécution, on parlait de meurtre avec Saul, et pour autant, Jésus l'a choisi. Et rien ne peut nous empêcher et vous empêcher aussi de revenir à lui si nous le décidons. Jésus a vaincu Satan sur la croix. Et nous avons ici un exemple aussi de cette victoire. Saul, en fait, était, même s'il avait eu un enseignement religieux, un instrument du diable. Mais, peut-être même un de ses meilleurs instruments à cette époque-là et à ce moment-là. Mais Jésus l'a choisi. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où Jésus l'a choisi et l'appelle, rien ne pourra l'empêcher de venir à lui. Ça, ayez foi en ça, ayez confiance en cela. Le Seigneur vous choisit. Une fois que vous êtes à lui, vous lui appartenez pleinement. Lève-toi, donc, dit Jésus à Ananias. Que va-t-il faire une fois son échange avec le Seigneur, justement ? Deux petits mots, il sortit. Donc, tout simplement, il obéit. Pas de discussion, encore une fois, pas de tentative de compromis. Il accepte la mission confiée par le Seigneur. Il croit ce qui lui a été apporté. Il remet sa confiance entre les mains de Dieu. Jésus me dit d'aller voir Saul. Ok, j'y vais. J'ai peur. Je lui en ai parlé. Il m'a rassuré. Il m'a dit que c'est lui qui l'avait choisi. Je lui fais confiance. Je sais qu'il veut mon bien, donc j'y vais. Et le passé simple, même dans « Il sortit », nous montre même que c'est une action immédiate. Il n'a pas attendu un mois, deux mois, trois mois. Non, il y est allé tout de suite. Tout comme le « Me voici » était une réponse directe et tout de suite au Seigneur. C'est encore une fois une véritable obéissance, rapide et avec fidélité. Et plus fort encore, que dit le texte ensuite quand Ananias arrive devant Saul au verset 17 ? Saul, mon frère. Mon frère. Il le salue avec amour. Comme s'il le connaissait déjà, comme si tout ce que Saul avait pu faire justement avant n'avait jamais existé. Il n'est pas arrivé devant Saul en se disant que c'était un piège. Peut-être qu'il avait encore un peu de peur malgré tout, mais il avait vraiment tellement confiance en le Seigneur qu'il ne s'est pas dit, ben non, c'est impossible que Saul devienne, ben que Saul ne puisse pas changer. Il l'a appelé vraiment mon frère. Le Seigneur, Jésus l'avait choisi encore une fois et cela lui suffit. Il considère alors de suite comme son frère en Christ. Et dans 1 Jean chapitre 5 verset 1, on peut lire aussi quiconque croit que Jésus est le Christ est né de nouveau. Et Ananias croit en la puissance de Dieu et il croit justement que ce qui est arrivé à Saul sur le chemin, c'est ça, c'est cette nouvelle naissance. Et qu'effectivement, aujourd'hui, il est devenu son frère. Pas de jalousie de sa part non plus, alors qu'il pourrait se considérer peut-être comme une meilleure personne que Saul. Non, c'est son frère. Comment aurions-nous réagi, nous ? Comment réagirions-nous si Là, dimanche prochain, une personne entre dans cette église, réputée encore une fois comme ayant fait beaucoup d'actes criminels, pareil, peut-être meurtre, peut-être terrorisme, peut-être autre chose. Comment le regarderions-nous? Comment l'accueillerons-nous? Comment nous pourrions l'accueillir? Est-ce qu'on va l'appeler mon frère de suite? Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, hein, si vous lisez un peu plus loin, verset 26 aussi, on voit la réaction des disciples, la première action des disciples quand Saul va aller vers eux après cette conversion. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Il n'avait pas encore cette foi et cette conviction comme justement Ananias a pu l'avoir de suite, suite à l'appel de Jésus. Et c'est vrai que ce n'est pas facile tout de même de montrer son amour, surtout quand on a peur de quelqu'un, quand on doute de quelqu'un. Mais encore une fois, Ananias lui obéit. Le Seigneur lui dit « va » et il y va. Il lui dit que son seul est son frère, il le considère comme tel. C'est aussi un exemple de foi, justement, que nous pouvons suivre. Et la grâce de Dieu, son pardon, sa vie, c'est vraiment disponible pour tous. Et Ananias a obéi aussi parce qu'il a confiance, encore une fois, en Dieu. Et on obéit à celui en qui on a confiance. Parce que c'est aussi dans la confiance qu'on peut trouver justement aussi la conviction, la foi, l'endurance et un refuge. Et c'est ce que justement vous offre aussi Jésus-Christ aujourd'hui. Et la suite du passage nous montre la fin de la conversion de Saul, le début de son obéissance véritable justement également. Il est désormais rempli du Saint-Esprit, Ananias lui a imposé les mains. Et ce qui l'empêchait de voir disparaît. Les écailles tombent, il est écrit. Il connaît désormais toujours les Écritures, mais aussi personnellement son Seigneur. Et la vérité. Donc il va se faire baptiser, il va commencer son témoignage. De suite, hein, il ne va pas attendre, hein, il reprend juste quelques forces en mangeant, mais de suite il commence son témoignage. Et ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que on pense souvent que tous les personnages bibliques sont des hommes à part. Et qu'on ne peut pas forcément être comme eux. On ne peut pas avoir cette foi, on ne peut pas avoir la même foi, le même courage, la même obéissance. Mais Saul et Ananias n'étaient pas des super hommes. Ils ont été choisis par Jésus, comme vous. Et leur force, leur volonté, leur d'obéissance, ça ne venait pas d'eux-mêmes. Il ne faut pas croire. Elle venait vraiment de Jésus et encore une fois de leur relation avec Jésus. Et Dieu a transformé Saul, il a transformé son dynamisme justement qu'il avait pour persécuter en dynamisme pour témoigner, pour annoncer la parole. Et Dieu utilise justement aussi notre passé, notre présent pour le servir. Et pour Saul, ça a été justement aussi une des puissances dans son témoignage, justement tout ce qu'il a vécu, le Seigneur l'a vraiment utilisé aussi. Et ça a été vraiment un témoignage vivant pour faire connaître Jésus-Christ. Alors, à la lecture de ce passage, encore une question, qu'attendons-nous? Je pense qu'on sait tous ce qu'il convient de faire. Obéir au Seigneur, sans discussion, sans négociation. Lui obéir en lui faisant confiance, en croyant qu'il sait aussi pourquoi, justement, il nous demande telle ou telle chose, qu'il connaît déjà en fait la suite. En croyant aussi que ce qu'il dit ou ce qu'il nous promet va s'accomplir. Et lui obéir aussi en l'écoutant encore une fois pleinement et véritablement. Nous savons ce qu'il convient de faire et pourtant, je vous le dis, hein, aujourd'hui, nous en sommes incapables. Pour plein de raisons. Plein de raisons comme notre orgueil qui nous retient. Se soumettre, pas pour moi. Incapable par nos propres forces. C'est trop compliqué, je suis trop faible. Parce que notre liberté peut-être est menacée. Si j'obéis à ça, si je fais ça, ben ça va me limiter. Je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela. Peut-être aussi notre peur, justement, de ce qui peut arriver, des conséquences. Ce n'est pas facile hein, d'annoncer la parole à une personne que l'on rencontre. Qu'est-ce qu'elle va penser de nous? Est-ce qu'on sera mis à l'écart? Et aussi, pourquoi nous? Pourquoi ce ne serait pas un peu aux autres de faire, parfois? Ananias et Saul ont obéi, encore une fois, non pas parce qu'ils étaient des super hommes, mais parce que, En réalité, quelqu'un l'a fait avant eux. Ce quelqu'un, je pense que vous l'avez compris, c'est Jésus-Christ. Et Jésus sur la croix, justement. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que même Jésus a eu peur, justement, d'aller jusqu'au bout ? On pourrait croire aussi que Jésus, c'est pas possible qu'il ait eu peur, mais si on prend dans Marc, chapitre 14, verset 33, on peut lire aussi « Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. » C'était peu de temps avant, justement, qu'il soit crucifié. Au verset 36, il disait aussi « Abba Père, toutes choses te sont possibles, et nous éloigne de moi cette coupe. » Mais la suite nous dit « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus est allé jusqu'au bout, justement. Il a obéi aussi. Il s'agit justement de peut-être l'unique acte de parfaite soumission, de parfaite obéissance, de l'obéissance ultime par amour pour la vérité, de la vérité de Dieu et pour l'amour pour Dieu. Je vous disais qu'on était incapable, mais maintenant je peux aussi vous dire que justement, suite à ça, suite à ce que Jésus a fait, en réalité maintenant et seulement maintenant, il nous est possible aussi quand même d'obéir comme lui. Comme lui l'a fait et comme il nous le demande. Levons-nous, ce qui a été dit à Saul, lève-toi sur ce chemin, va dans la ville. Ce qui a été dit à Ananias, lève-toi, va à la rencontre de Saul. Ça vous est dit aussi, levez-vous, levons-nous. Soyons disponibles, vraiment, pour le service du Seigneur. Et en nous rappelant aussi toujours, encore une fois, que la qualité, en fait, de ce service que le Seigneur nous demande ne dépend pas de nous, mais qu'elle ne dépendra vraiment jamais de nos propres forces, mais elle dépendra toujours de la qualité de notre écoute envers lui. Ça sera toujours notre obéissance, en fait, une résultante, si on peut dire, de notre communion avec le Seigneur Jésus. Et ne pensons vraiment jamais que cette obéissance, c'est ça qui va nous faire gagner cette relation avec Dieu. Que c'est parce qu'on obéit que Dieu, on va gagner cette relation et cette communion. Et que Dieu vous bénisse vraiment et qu'il puisse aussi vraiment vous inspirer, vous donner cette écoute, que vous puissiez la rechercher aussi chaque jour dans sa parole, encore une fois, et dans la prière.